Vous écoutez, on lit pour vous.
Cette sexualité qu'on ne regarde pas. Un texte de Karine Bénézet et Simon Bolduc, de l'Itinéraire, paru le 24 février 2024 dans la presse. Inexistante, pas reconnue, associée au risque, la sexualité des personnes en marge est souvent vue par la lorgnette des ITSS et celle de la sécurité physique des personnes, explique Philippe Benoît Côté, chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et professeur en sexologie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Pourtant, il serait intéressant de penser la sexualité des personnes en situation d'itinérance autrement. Pierre et Nicole occupe un des 9 cubicules réservés au couple au refuge Hochelaga, l'un des 3 refuges gérés par le Cap-Saint-Barnabé. Ici sont acceptés les chats, les chiens et les couples. Service rare quand on comprend qu'à Montréal, il y a 18 lits réservés aux couples, dont 16 dans Hochelaga-Maisonneuve et 2 au refuge de l'Hôtel-Dieu. Le couple partage l'espace aménagé de 2 lits superposés et d'une table. Difficile cependant de vivre leur intimité quand on constate l'action qu'il y a dans les couloirs entre les cubicules séparés par des bâches et des 2x4. C'est la même réalité au refuge de l'Hôtel-Dieu, géré par Mission Old Brewery, une ressource avec 2 chambres réservées aux couples. Seule nuance importante ici, les chambres sont fermées, ce qui demande plus de vigilance. Souvent, on connaît les couples de la rue, lance Émilie Fortier, directrice des services d'urgence du refuge. On intervient quand on a des doutes et si on constate de la violence dans la dynamique des 2 personnes ou du travail du sexe. On ne tolérera pas ça dans nos installations. Abstinent. Hervé et sa femme Linda sont abstinents depuis qu'ils ont mis les pieds au refuge Hochelaga. Après une discussion franche, le couple a pris la décision de mettre cette sphère de sa vie de côté, le temps de trouver un logement. Eux aussi, à l'instar de Pierre et Nicole, font lit à part. Le modeste matelas double est petit pour 2 personnes. Ça me manque de dormir collé et tranquille, dit Hervé. Catherine Lesage, coordonnatrice clinique pour le Cap-Saint-Barnabé, juge important de permettre aux couples de dormir ensemble. Ce n'est pas juste la sexualité, mais un contact intime avec l'autre, qui peut être essentiel pour un minimum de stabilité et même être un levier dans ces situations limites. Mériter son plaisir. Outre le financement d'enjeux de santé publique, la sexualité des personnes qui habitent la rue ne trouve guère de résonance positive dans la sphère politique. Quant à la perception de la population, elle peut cacher un certain nombre de préjugés. L'un d'eux, le mérite. Parce qu'elle n'occupe pas d'emplois rémunérés, les personnes en situation d'itinérance ne mériteraient ni une alimentation saine, ni un logement décent, et encore moins l'accès à des moments de plaisir. Peut-on lire dans un rapport du Collectif pour un Québec sans pauvreté, publié en 2019. Si on suit cette logique, il faut donc avoir les moyens de se payer un loyer pour pouvoir s'épanouir sexuellement. Mais quand le budget ne le permet pas, et hormis les quelques chambres en hébergement d'urgence ouvertes aux couples, on fait comment pour partager de l'affection? Un mur de tissu. À demi-mot, on ose évoquer la pertinence des campements comme de possibles lieux d'intimité. Une solution provisoire, certes, mais qui offre au moins l'option d'être caché derrière un mur de tissu de tente. Ça me fait de la peine de l'admettre, mais oui, dit la directrice du refuge de l'Hôtel-Dieu, affirmant qu'il s'agit d'une solution très adaptée au regard de l'insuffisance de l'offre de services. Au campement du site Guertin à Gatineau, 2 personnes interviewées rapporte un sentiment de sécurité et une tranquillité d'esprit acceptable à vivre le campement en amoureux. Rappelons toutefois que ce dernier est orchestré par l'organisme Itinérance Zéro qui veille au grain et au bon déroulement de la saison hivernale. Philippe Benoît Côté a lui aussi constaté dans ses recherches que les tentes sont de bonnes alternatives. Les couples préfèrent de toute façon ne pas aller dans les refuges pour ne pas être séparés. Briser le tabou de la sexualité. Les politiques publiques pourraient inclure la santé sexuelle positive parmi d'autres priorités, estime M. Côté. Mais sur le terrain et dans les rapports, la sexualité des personnes en situation d'itinérance est largement invisibilisée. Pour faire de la santé sexuelle une priorité, encore faudrait-il rompre avec le tabou qui l'entoure, avance le professeur. Ce ne sont pas tous les intervenants et intervenantes qui sont à l'aise et habilités à discuter de sexualité avec les usagers, constate Joris Grail, coordonnateur du programme Travail du sexe chez Réseau. Et ce, en plus des informations qui restent taboues, comme les lieux de pratique des activités sexuelles. 6 mètres carrés et un sauna. Jean-Jeannette fréquente les saunas gays depuis 30 ans. Un espace qu'elle dit très sûr. Elle se rend là-bas avant tout pour cruiser et plus si affinité. Et sans ces lieux ouverts et informels, elle affirme qu'elle se serait prostituée. Nulle part ailleurs, les pauvres ne peuvent se payer une chambre pour dormir au chaud et avoir des relations sexuelles, estime-t-elle. Lorsqu'on lui demande la différence entre le sauna et une maison close, elle dit clairement « Il n'y en a pas. C'est comme un bordel, mais qui, pour elle, répondait à l'époque à ses droits les plus élémentaires. Dormir au chaud, dans un endroit propre, avec une porte qui se verrouille, socialiser et avoir le temps d'exercer une sexualité sans risque. C'était « Cette sexualité qu'on ne regarde pas », un texte de Karine Bénézet et Simon Bolduc, de l'itinéraire, paru le 24 février 2024 dans La Presse.
Les boissons à 0,5% peuvent-elles s'afficher sans alcool? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 février 2024 dans La Presse. Des brasseries québécoises sont visées par une demande d'action collective. Alors que les boissons sans alcool sont plus populaires que jamais, une demande d'action collective contre des brasseries québécoises vient d'être déposée à Montréal. Les plaignantes estiment que les fabricants de boissons qui contiennent 0,5% d'alcool ou moins et qui les affichent haut et fort comme « sans alcool » trompent leur clientèle. Une vingtaine d'entreprises de différentes tailles et de différentes régions sont visées dans cette demande, dont la brasserie McCausland, Molson, La Voix Maltée, les Brasseurs du Nord, la microbrasserie Buckale, le groupe Triani et la coopérative de brasseurs professionnels de Saint-Roch, que l'on connaît bien sous son nom de La Barberie, à Québec. La demande d'action collective est lancée par Julie Parent et Stéphanie Zen. La première voulait stopper complètement sa consommation d'alcool, la seconde la réduire. Stupéfaites, les deux consommatrices ont réalisé que des produits qui s'affichaient très clairement comme sans alcool en contenaient un peu, 0,5% ou moins. Les deux consommatrices se sont tournées vers le cabinet Lambert Avocat, spécialiste des actions collectives. Citation : C'est une question de transparence. Quelqu'un qui est en sobriété et qui ne veut plus toucher à l'alcool a le droit de pouvoir se fier à sa première impression. Fin de citation, affirme l'avocat Jimmy Lambert qui mène ce dossier. Selon lui, même s'il est bel et bien indiqué sur les canettes le faible taux d'alcool, le message est contradictoire si on présente la boisson comme sans alcool. La pratique est courante, mais pas généralisée. Plusieurs brasseurs affichent clairement le taux d'alcool sur leurs produits qui en contiennent peu, peut-on lire dans les documents déposés en Cour supérieure le 23 février 2024. La consommation d'alcool, même faible, peut être problématique pour plusieurs groupes, rappelle l'avocat, dont les gens qui ont un problème de dépendance, les femmes enceintes, les jeunes conducteurs qui ne peuvent pas boire d'alcool du tout, ou simplement les gens qui suivent un traitement médical pour lequel c'est contre-indiqué. Au Québec, la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques dit qu'à plus de 0,5%, le produit doit être affiché clairement comme alcoolisé, explique Maître Lambert, qui poursuit « S'il y en a moins, les fabricants doivent appliquer la loi fédérale sur les aliments, dont les règles indiquent que si on veut apposer la mention « sans alcool » ou « non alcoolique », le produit doit avoir un taux inférieur à 0,05%. En présentant leurs boissons comme sans alcool, ces fabricants contreviennent à la loi sur la protection du consommateur, allèguent les requérantes, puisqu'ils donnent l'impression que leurs produits ne contiennent pas d'alcool du tout. Dans les documents déposés en cours, on relate que Stéphanie Zen a acheté des bières présentées comme sans alcool, sans faire de grande inspection à l'épicerie. C'est une fois à la maison que cette directrice adjointe d'une garderie a réalisé qu'elle avait en fait une bière faiblement alcoolisée. Maître Lambert mentionne que Mme Zen a fait son achat dans une section d'une épicerie où l'on présentait l'ensemble des produits exempts d'alcool. Selon lui, on ne devrait pas avoir à lire les petits caractères quand on fait ses achats. Et maintenant? Citation. Les Québécois et Québécoises ont le droit de savoir le contenu en alcool des produits qu'ils sont tentés d'acheter. Fin de citation. Indique la demande d'action collective qui vise à former un groupe de consommateurs qui se sont sentis lésés dans cette affaire. Il pourrait y avoir, citation, plusieurs dizaines de milliers de Québécois, voire des centaines de milliers. Fin de citation. On demande un remboursement des achats effectués durant les trois dernières années et un dommage punitif. Les produits visés sont variés. La liste contient près de 60 boissons, dont la Boréal hors sentier IPA sans alcool, le Romeo's Gin non alcoolisé, la Hochelag blanche sans alcool, la placebo framboise et la Sober Carpenter Irish Red Ale. La liste a été faite après une recherche selon les produits offerts dans les épiceries et à la SAQ. Inévitablement, plusieurs boissons, en tout point semblables à celles qui sont nommées, échappent à la demande. L'idée, précise Maître Jimmy Lambert, n'était pas de s'adonner à une chasse aux sorcières dans le monde brassicole québécois et de viser toutes les petites entreprises de la province, mais de s'attaquer à la pratique et aux plus gros producteurs. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vin dans cette demande, dit-il. D'ailleurs, Maître Lambert précise que les deux initiatrices de cette demande et lui-même seraient déjà satisfaits si leur démarche faisait changer les pratiques dès maintenant. Citation. Sincèrement, dit l'avocat, si l'industrie change ses pratiques, on peut tout le monde être super heureux et fier. Fin de citation. Une question de goût. En réponse à des questions sur cet enjeu, à la maison Jean Lapointe, on précise que les boissons à faible quantité d'alcool, peu importe comment elles sont présentées, ne sont pas une réelle préoccupation. Ces spécialistes recommandent en effet aux gens qui vivent avec des problèmes de dépendance et qui souhaitent ne plus consommer d'alcool d'éviter de choisir des boissons sans alcool qui imitent ses saveurs, même celles qui n'en ont pas du tout, pour éviter d'y reprendre goût. C'était « Les boissons à 0,5% peuvent-elles s'afficher sans alcool ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 février 2024 dans La Presse.
Les deux extrêmes de l'exil. Un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 25 février 2024 dans Le Devoir. Certains en arrachent, d'autres s'en tirent bien. En choisissant de s'établir en région, les réfugiés ukrainiens au Québec traversent une intégration parfois réussie, parfois moins. Le devoir est d'aller rencontrer deux familles en Estrie qui vivent les deux extrêmes du même exil. La fierté d'Alexandra. Alex Baluyev et Olga Kotliarova se présentent dans un français où l'accent et l'hésitation brouillent un peu la conversation. « Nous venons de Kiev. Moi, je travaillais pour le gouvernement et elle, dans la gestion de l'eau. » À leur côté, Alexandra Koulinenko, au Québec depuis 13 ans, « Ces deux-là sont ma fierté, dit-elle, dans un français impeccable. » Sorte de fée marraine des réfugiés ukrainiens à Granby, elle a pris ce couple de réfugiés sous son aile quand le tourbillon de la guerre les a d'abord propulsés dans une famille d'accueil à Chambly. Leur amitié a débuté quand le duo a décroché un emploi chez le fromager Agropur, également l'employeur d'Alexandra. « Les Québécois ont été très patients, reconnaît Olga. Quand nous avons commencé le travail en usine, beaucoup de gens étaient intéressés par nous, nous aidaient. La lune de miel des premiers jours a depuis fait place à une routine exigeante, explique Alexandra. Tout le temps, il faut montrer qu'on est capable. Une dizaine d'Ukrainiens travaillent aujourd'hui pour la fromagerie. Policiers, couturiers, banquiers, toutes sortes de passés s'y mélangent. Alex et Olga ont appris rapidement leur métier. Un métier très compliqué, souligne Alexandra. Leur succès lui revient en partie. Elle a traduit du français vers l'ukrainien l'énorme documentation sur les protocoles de fabrication de fromage. J'en ai dormi sur le clavier. L'intégration se renforce à coups de quart de travail partagé. Une fusion entre les Ukrainiens et le reste des employés s'opère, selon la plus âgée des trois. Au début, on nous appelait l'équipe ukrainienne, mais on n'utilise plus le mot. Malgré les fêtes qu'elle organise pour entretenir la vie sociale de ses déracinés, rien ne garantit l'inclusion, de dire Alexandra Koulinenko. Pas plus tard que la semaine dernière, deux Ukrainiens ont quitté Agropur pour trouver le salut en Alberta, à cause de la langue. L'Ukraine et le Québec partagent pourtant un lieu commun sur ce point. On peut dire que notre première valeur commune, c'est notre identité culturelle et linguistique face à notre grand voisin. Seulement, le défi du français devient pour certains un défi de trop pour nombre de ces malchanceux de l'histoire. Ce défi, Alex et Olga l'abordent avec courage, au point qu'ils paient de leur poche des cours de français afin de satisfaire aux exigences du gouvernement. Obtenir la résidence permanente va retirer un énorme poids de nos épaules, confie Alex. Alexandra relativise les résultats que l'on peut espérer de ce réenracinement. Dans mon cas, ça a pris 10 ans pour devenir stable. Un Ukrainien errant, Ruslan Yevtushenko, ne parle ni anglais ni français. Les ongles encrassés d'huile de moteur, il énumère en russe les malchances qui les frappent, lui, sa femme et ses 5 enfants. Originaire de Poltava, le petit clan s'est retrouvé dans leur fuite précipitée, à tête à la baleine, minuscule village en Basse-Côte-Nord. Le hameau, parmi les plus isolés du Québec, n'est accessible l'été que par avion, hélicoptère ou bateau. « On ne trouvait pas d'autre endroit prêt à nous aider », explique le père de famille pour justifier le choix de cette destination. Après 2 mois là-bas, sans pouvoir gagner sa vie, il reprend le chemin de l'exil. À travers Internet, il repère en Estrie une offre d'emploi comme mécanicien, son métier d'origine. « Ici, au moins, il y a une civilisation », se plaît à dire Ruslan. Sauf que cette civilisation reste pour lui très compliquée. À mon âge, 52 ans, apprendre le français... Ruslan hoche la tête. Ça n'arrivera jamais. Incapable d'avoir une conversation avec ses voisins ou ses collègues sans passer par le truchement de la traduction en ligne, il réussit tout de même à gagner de quoi se nourrir. Sauf que, de mésaventure en mésaventure, l'étau administratif se resserre autour de la famille. Lorsqu'il était à tête à la baleine, le couple démuni s'est tourné vers l'aide sociale pour recevoir de l'aide. En commençant à travailler pour un garage de Mansonville, Ruslan n'aurait pas déclaré son nouvel emploi tout en continuant à encaisser l'aide du gouvernement. Il doit désormais rembourser 4 300 $ à l'État, une somme énorme pour eux. On leur a communiqué qu'on travaillait. On a envoyé les documents, affirme sa femme Elena Malikova, à partir de la cuisine, d'où l'on peut voir par la fenêtre le garage où besogne son mari. Le Devoir n'a pas pu confirmer cette information. Coincé dans un Québec dont il comprend à peine les rouages, Ruslan s'approche chaque semaine du moment qu'il redoute plus que tout, l'échéance de son permis de séjour. « Si je ne reçois pas de résidence permanente, je dois partir pour l'Ukraine. Si j'y vais, je ne pourrai pas revenir à cause de la loi martiale. C'est un aller simple », indique-t-il, l'air grave. Pire, le passeport ukrainien de son fils échoua à la fin de l'année. Sans solution, le même sort l'attend. Mon fils arrive à 16 ans. S'il retourne en Ukraine pour faire ses papiers, c'est pour lui aussi un aller simple. Il laisse tomber un nom en fin de conversation, la Saskatchewan. Cette province où l'on dit pouvoir obtenir plus facilement sa résidence se profile peut-être comme une porte de sortie. C'était « Les deux extrêmes de l'exil », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 25 février 2024 dans Le Devoir.
Les deux côtés de l'amitié au travail, un texte de Maude Goyer paru le 27 février 2024 dans La Presse. Riche et nourrissante, les amitiés au travail motivent, fidélisent, font baisser le stress, rendent plus créatifs et plus performants. En somme, elles multiplient le plaisir et le bonheur d'être au boulot. Mais elles dissimulent un côté sombre et peuvent vite devenir malsaines, voire toxiques. Prudence, disent les experts. Citation. C'est la moitié de moi-même et je suis la sienne. Je n'ai même pas besoin de lui parler. Quand je vais moins bien, elle prend la relève et je fais la même chose pour elle sans rien attendre en retour. Fin de citation. Cette déclaration d'Isabelle Descaries, 49 ans, éducatrice en garderie à Blainville, démontre bien la puissance d'un lien amical au travail. Pour elle, son amitié avec sa collègue Marie-Lou, avec qui elle travaille depuis 4 ans, fait toute la différence. Il ne fait pas de doute que les amitiés au travail améliorent la qualité de vie, souligne Jacques Forêt, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et psychologue. Citation. Tout va aller mieux, le temps en présentiel, le rendement, l'engagement, il y aura moins de griefs, plus de concentration, de créativité. Fin de citation, affirme Jacques Forêt. Il cite une étude de la firme américaine Gallup qui indique qu'avoir un meilleur ami en milieu professionnel est gage de sécurité. Dans le secteur de la construction, il y a moins de morts sur les chantiers. Citation. C'est un peu comme si l'ami disait « Fais attention, attache-toi, je tiens à toi ». Fin de citation, cite en exemple M. Forêt. Par ailleurs, en juin 2022, selon un sondage réalisé par la même société, seulement 20% des adultes ont déclaré avoir un meilleur ami au travail. Autonomie, compétence, appartenance. Les conséquences positives de liens forts ne sont pas surprenantes quand on tient compte des besoins de base des humains, souligne Jacques Forêt. Citation. Nous avons tous 3 besoins innés et universels. C'est reconnu par 164 pays, explique-t-il. Il s'agit de l'autonomie, du sentiment de compétence et de l'appartenance sociale. Et je ne parle pas seulement au travail, dans la vie en général aussi. Fin de citation. L'appartenance sociale au travail se décline à différents degrés, que ce soit des connaissances, des amis, de bons amis ou un meilleur ami. Pour Cynthia Mathieu, psychologue industriel et professeur à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, la réalité dans laquelle s'inscrit l'amitié est aussi sa limite. Autrement dit, le fait que l'amitié se déploie dans le milieu professionnel est un couteau à double tranchant. Citation : Il faut faire bien attention. Il vaut mieux apprendre à bien connaître les gens avant de choisir de s'ouvrir à eux. Certaines personnes peuvent être mal intentionnées et utiliser les informations qu'on leur a confiées contre nous. Il peut y avoir de la manipulation et les interactions deviennent toxiques. Fin de citation, nous avertit Cynthia Mathieu. Compétition et déception. Madame Mathieu rappelle qu'au fond, l'important est d'avoir un réseau social. Le facteur de protection est là, et pas nécessairement dans le développement de liens d'amitié. Citation : L'aspect compétitif peut jouer des tours. Si on dit trop de choses sur soi, on se rend vulnérable. Il y a un risque. Fin de citation. Hugo, prénom fictif, chargé de projet dans une grande boîte de publicité montréalaise, a payé le prix d'un attachement amical à une collègue. Il s'est confié sur ses ambitions alors que celle-ci nourrissait secrètement les mêmes. Citation : Quand elle a eu le poste, ça a tout brisé pour moi, confie l'homme de 37 ans. J'ai été doublement déçu de ne pas obtenir la promotion que je convoitais, mais surtout d'avoir été trahi. Fin de citation. Il précise qu'il a quitté l'endroit et qu'il n'a jamais renoué avec son ami. Citation : J'ai appris, lance-t-il. Désormais, j'entretiens de bons liens avec mes collègues, mais sans plus. Le travail, c'est le travail. Fin de citation. Conflit de valeurs. Sylvie Saint-Onge, professeure de management à HEC Montréal et chercheuse au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, rappelle qu'il est bon de se souvenir qu'il y a une pyramide hiérarchique dans une entreprise. Citation : Est-ce que mon ami peut devenir mon boss ou moi devenir le sien ? On peut partir d'une bonne cohésion, mais atteindre un point de bascule qui mène à des dérives. Fin de citation, souligne Sylvie Saint-Onge. Elle fait ici référence à des conflits de valeurs ou des débats éthiques. Citation : Lorsque l'amitié est très forte, cela peut influencer notre jugement, rappelle-t-elle. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire au nom de l'amitié ? Cela peut, par exemple, toucher notre intégrité, notre crédibilité, notre professionnalisme. Établir nos barrières sans perdre notre objectivité est essentiel. Fin de citation. C'était « Les deux côtés de l'amitié au travail », un texte de Maude Goyer paru le 27 février 2024 dans La Presse.